Passage bien connu. On va quand même regarder quelques mots, notamment un mot essentiel dans cette parabole, en tout cas dans ce discours de Jésus, c'est celui du prochain. Verset 29, lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et en fait, c'est plutôt une bonne question, même si on pourrait se dire quand même il exagère, parce que au temps de Jésus, c'est une notion qui n'est pas tout à fait fixée, en fait, la fiction du prochain. En Genèse, ou dans le livre des Juges, le prochain, comme on est dans une société tribale, c'est celui qui fait partie de la tribu. À la rigueur, on avait parlé de la confédération des tribus, donc c'est celui qui fait partie de la confédération des tribus. Si ce n'est pas ma tribu, c'est une autre tribu d'Israël. Mais ça reste très, très restreint. Après, on a les prophètes. Donc les prophètes, plus tard, parce qu'on arrivera plus vers la période de l'exil, eux, ils vont parler non pas simplement du clan, parce qu'on a commencé à dépasser le clan, et notamment à la période où il y a eu, vous savez, les deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et donc après, on va dire non, le prochain, c'est l'Israélite. Donc on a dépassé quand même le côté clanique, mais ça reste l'Israélite, celui qui fait partie du peuple élu. Mais en même temps, avec l'exil, il y a eu également des Juifs qui sont partis, non pas en exil à Babylone, mais qui sont partis en Égypte, notamment la communauté d'Alexandrie. Et donc eux, ils voient les choses maintenant différemment. Dans leur texte, le prochain, c'est pas seulement l'Israélite. C'est bien sûr l'Israélite, mais c'est aussi le concitoyen païen. Donc ils s'intègrent dans la société dans laquelle ils sont en train de vivre. Donc on voit comment est-ce que cette notion de prochain, elle n'est pas fixée en fait. Donc la question du docteur de la loi, elle prend quand même tout son sens. Ensuite, Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Le terme descendait, vous le savez, est tout à fait approprié, puisque s'il n'y a que 25 km de distance entre les deux villes, Jérusalem est à, ça dépend des points, mais en gros 800 mètres d'altitude, alors que Jéricho, c'est la ville la plus basse du monde, c'est 240 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc quand Jésus dit descendre d'une ville à l'autre, c'est vrai, on descend. Et puis, c'est une route qui était connue, mais enfin je veux dire à l'époque comme beaucoup de routes, hein, de petites routes en tout cas, pour les brigandages qui pouvaient avoir lieu sur cette route. Donc c'est quelque chose de connu. Et puis, pour bien comprendre aussi l'histoire là du prochain et du samaritain, il y a deux autres personnages, le prêtre et le lévite, qu'il nous faut un petit peu détailler. Le prêtre, on l'avait déjà dit au tout début, lorsqu'il était question, vous vous rappelez, de la classe d'Abias pour Zacharie, un prêtre de la huitième classe, la classe d'Abias, c'est ce qu'on avait dit. Et donc on avait déjà dit qu'il y a 24 classes sacerdotales. Donc elles ont été établies par le roi David, et on avait déjà dit aussi que chacune de ces 24 classes servait le temple chacune, enfin une semaine après l'autre. Donc ils étaient là plusieurs semaines par an, en fonction une ou deux. Mais toujours est-il que voilà, un prêtre fait forcément partie de ces 24 classes sacerdotales. Mais les lévites, c'est un peu à part. Des fois, on entend c'est le serviteur du prêtre, mais en fait, c'est pas juste. Le lévite, les lévites ne sont pas tous prêtres. Certains sont prêtres, mais d'autres ne sont pas prêtres. En revanche, ils sont tous membres d'une tribu, et cette tribu, c'est la tribu de Lévi. Et lorsqu'il y a la bénédiction des différentes tribus, la tribu de Lévi est bénie comme étant justement la tribu sacerdotale. Elle a un statut particulier, et ce statut particulier reste dans le titre. Ce sont des lévites. Alors bien sûr, ils vont servir au temple, mais souvent ils vont être aussi greffiers ou ils vont être présents dans les tribunaux. Ils ne sont pas forcément prêtres, mais dans le peuple d'Israël, ils ont un statut particulier. Bien maintenant qu'on a défini ces différentes fonctions ou ces différents termes, je vous propose une petite lecture du bon samaritain. Parce que les interprétations, on l'a dit, hein, sont variées, nombreuses, souvent un peu moralisatrices, mais elles ne sont pas toutes recevables du point de vue exégétique. Parce que le problème du bon samaritain, c'est qu'on l'a tellement lu et entendu qu'on a tendance à plaquer notre morale sur le texte, et puis comme ça permet de justifier ce que nous on pense. Mais on va essayer de regarder, nous, c'est ça l'idée, qu'est-ce que le texte peut nous apprendre en fait. Et donc on va pour ça détailler le profil des différents personnages au fur et à mesure de leur apparition. Donc d'abord, on a l'homme blessé. Et cet homme blessé, force est de constater qu'il n'a pas d'identité propre. Un homme descendait, il tomba sur des bandits, ils l'ont dépouillé, roué de coups. On n'a aucune indication, c'est juste que c'est un homme. Et cet homme, donc, on ne peut même pas savoir par ses vêtements une catégorie sociale, ou si c'est un étranger ou un Israélite, parce qu'il a été dépouillé, donc il n'a vraiment plus rien. Et comme il est laissé pour mort, on ne peut même pas lui demander son identité. Donc vraiment, la volonté de Jésus dans son récit, c'est que cet homme ne soit pas identifiable. Il fait tout pour qu'il ne soit pas identifié. Qui dit homme non identifiable, dit aussi homme quelconque, dit homme auquel celui qui est en train d'écouter le récit ou en train de le lire comme nous aujourd'hui peut s'identifier. Ensuite passe un prêtre et un lévite. Et là, il y a une précision qu'il ne faut pas rater. Elle est au tout début du verset 31. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, donc par hasard, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Donc tous les deux, ils arrivent par hasard. C'est la précision que Jésus fait. C'est une précision qui a donc son importance. Parce qu'on l'a dit, la route qui va de Jérusalem à Jéricho est une route dangereuse. Donc forcément, si ce sont un prêtre et un lévite, ce sont des Israélites, donc ils savent que c'est dangereux. Et ils passent comme ça. Donc comment est-ce que deux Israélites qui sont au courant du danger peuvent passer seuls et par hasard sur ce chemin? Eh bien, c'est justement le par hasard qui devrait nous donner deux possibilités de réponse. D'abord, ça permet d'expliquer que le prêtre et le lévite, puisqu'ils viennent par hasard, en fait, ne sont pas en voyage. Donc, ils n'ont rien sur eux. Donc, rien à se faire voler déjà. Mais surtout, rien pour soigner celui qui est blessé. Ils ne peuvent pas non plus le transporter. Mais surtout, et c'est la deuxième chose, et c'est la plus importante, la plus concrète, c'est un effet, littéraire. En fait, ils servent surtout de procédé d'opposition. Si Jésus arrivait directement au bon samaritain, ça aurait moins d'impact que s'il y a eu avant deux personnages importants, un prêtre et un lévite, qui étaient passés sans rien faire. Et on voit comment est-ce que il y a une différence notable, c'est que si le prêtre et le lévite passent par hasard, en revanche, verset 33, un samaritain qui était en route arriva près de lui. Et lui, il était en route. Il n'est pas là par hasard. Il est sur son chemin. Il est à sa place. Mais si on revient quand même aux prêtres et aux lévites, hein, eux, en raison de leur condition, soit sacerdotale, soit d'appartenance à la tribu de Lévi, donc la tribu sacerdotale, ils n'ont pas le droit de toucher un cadavre. S'ils touchent un cadavre, ils sont impurs. S'ils sont impurs, ils ne peuvent plus célébrer le culte, le temps de la purification. Donc, l'idée, ce n'est pas de chercher des excuses aux prêtres lévites, mais c'est de donner l'ensemble du contexte. Le prêtre et le lévite, ils sont là par hasard, et en plus, normalement, ils ne peuvent pas toucher au corps. Ils pourraient le faire, mais dans ce cas-là, ils deviennent impurs. Et si on regarde bien, des trois personnages, le prêtre, le lévite et le samaritain, il n'y en a qu'un seul dont on connaît les sentiments. C'est le samaritain. Il le vit et fut saisi de compassion. Donc à nouveau, il y a un procédé d'opposition. on dit rien pour le prêtre lévite. On ne sait pas s'ils ont été saisis de compassion, mais justement, ils ne pouvaient pas y aller. Donc finalement, le procès d'opposition pourrait faire penser qu'ils n'ont pas été saisis de compassion, mais ce n'est pas dit non plus. Donc maintenant, le Samaritain. Le Samaritain, lui, il est clairement identifié, c'est un étranger. On avait déjà parlé la dernière fois des Samaritains et comment est-ce qu'il y a cette haine entre Samaritains et Judéens et Galiléens en raison du lieu de culte, le mont Gérizim ou le temple de Jérusalem, et par le fait que à la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ, le roi Jean Hyrcan avait été raser la ville de Samarie et raser le temple. Donc il y a cette haine qui existe entre ces deux peuples. Lui, il n'est pas juste de passage, parce qu'on a dit il est en route, donc il est en voyage. Mais c'est un trajet qu'il ne fait pas juste une fois. Il est appelé à être répété ce trajet, c'est ce qu'indique en tout cas le verset 35. Parce qu'il dit à l'hôtelier, quand je repasserai. On a donc un homme qui voyage et cet homme qui voyage, c'est un homme qui emporte avec lui forcément un minimum et pour sa sécurité et pour sa santé. S'il se blesse, surtout sur une terre étrangère, il faut qu'il compte sur lui-même. S'il est sur une terre étrangère, en plus en prenant, si c'est un voyageur, il le sait, des chemins sur lesquels il peut y avoir des brigands, il faut qu'il puisse assurer sa sécurité. Donc, lui, il peut prendre en charge le blessé. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Il n'y a pas que l'aspect matériel. Et c'est là, justement, qu'intervient l'importance de la précision du sentiment. Finalement, ce qui est le plus important, ce n'est pas que lui, le matériel, et que les autres ne l'avaient pas. Ce qui est important, c'est la seule chose qui est évoquée pour lui, c'est qu'il est pris de compassion. Et donc c'est ça qui va le motiver, c'est ça qui va lui permettre d'effectuer cette action. Action numéro 1, il s'approche. Action numéro 2, il bande les plaies. Action numéro 3, il verse de l'huile et du vin. Action numéro 4, il charge le blessé sur sa monture. Action numéro 5, il le conduit dans une auberge. Action numéro 6, il prend soin de lui. Et action numéro 7, il paye l'aubergiste. On pourrait même ajouter une action numéro 8, il promet de payer les frais supplémentaires. C'est important. Parce que je ne sais plus si on l'a déjà dit, mais dans la symbolique des chiffres, dans la Bible, le numéro 7, c'est la plénitude. Donc ça veut dire que le Samaritain a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a tout fait. Et il y a quelque chose de supplémentaire, c'est le 7 plus 1. On a là, on voit bien, 7 actions, et puis il y a une huitième qui pourrait arriver par la suite. Le 7 plus 1, c'est aussi l'idée que, comme nous, quand on célèbre la messe le dimanche, on dit que c'est le premier jour de la semaine. C'est le premier et le dernier, parce que c'est l'ensemble, c'est tout. Donc on va, même comme si c'était possible, pour nous c'est impossible d'aller au-delà de la plénitude, mais pour Dieu c'est possible. Donc ça veut dire que c'est la trace de l'œuvre de Dieu. 7 plus 1. Donc, il faut voir dans la compassion du Samaritain la marque aussi de la compassion de Dieu. C'est ce que révèle le 7 plus 1. Donc le Samaritain va se soucier non seulement de ce qui se passe pour le blessé quand il l'a sous les yeux, mais également de ce qui se passe pour le blessé lorsqu'il n'aura plus sous les yeux. Et c'est pour ça qu'il propose le plus 1. Je paierai le surplus. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir définir le rôle de l'aubergiste. Si le samaritain, c'est celui qui sauve, l'aubergiste, c'est celui qui reçoit la mission de sauver au nom du samaritain. Et donc maintenant qu'on a posé tout ça, on va pouvoir commencer à essayer de replacer les personnages. Si le samaritain est celui qui sauve, c'est de nous mettre la puce à l'oreille. Qui est celui qu'on appelle Dieu sauve? C'est Jésus. Le plus 1 nous faisait penser justement à la trace de Dieu. Donc le Samaritain, celui qui sauve, c'est Jésus. et l'aubergiste, celui qui est appelé à sauver au nom du Samaritain, donc à sauver au nom du Christ. On pourrait même parler de l'auberge de manière plus large. Et bien, les pères de l'Église, eux, ils l'ont très vite compris, c'est l'Église elle-même. Et donc c'est aussi le chrétien qui est là, qui est présent, parce qu'il a cette mission, la mission de participer à sauver l'homme blessé au nom du Christ. Donc maintenant, il faut savoir qui est l'homme blessé. Cet homme qui est sans identité. Et bien, puisqu'il est sans identité, c'est justement tout homme. Et c'est là que Jésus fait évoluer le concept de prochain. Ce n'est pas simplement l'israélite ou le concitoyen, ça devient tout homme parce que cet homme n'a pas de visage. Mais pas en toute situation. Et c'est là qu'on va quitter le côté parfois un peu moraliste des lectures qu'on en fait. Parce que lorsqu'il va aller le sauver, c'est pour aller le confier à l'auberge qu'on a définie comme étant l'Église. Donc en réalité, l'idée, c'est bien que Jésus est envoyé par Dieu pour sauver tout homme, et les sauver de quoi ? De la mort. Et comment est-ce qu'on est sauvé de la mort ? En entrant dans l'Église qui conduit vers la vie éternelle, notamment par le baptême et par les sept sacrements. Alors c'est un peu hasardeux pour le coup, de dire qu'il y a un lien direct entre les sept sacrements et les sept actions, parce que les sacrements c'est plus tardif, et donc là c'est une lecture qu'on fait à posteriori bien sûr. Mais toujours est-il que, pourquoi est-ce qu'il y a sept sacrements aujourd'hui dans l'Église catholique ? En raison de la symbolique du chiffre 7. Donc l'idée est quand même commune entre les sept actions et les sept sacrements, c'est là que se joue la plénitude. Donc à ce moment-là, le docteur de la loi, celui qui a interpellé Jésus sur question du prochain, eh bien c'est à lui que Jésus est en train de dire qu'il est lui-même l'incarnation de Dieu qui vient pour sauver tous les hommes. Comment ? En les confiant aux gars qui sont à côté de lui, les disciples, qu'il vient d'envoyer en mission pour annoncer quoi ? Le règne de Dieu. Donc on voit comment est-ce qu'en fait, l'histoire qu'il est en train de raconter, elle a déjà commencé à s'accomplir. Elle est en train de s'accomplir. Et ça signifie aussi que si le chrétien, c'est l'aubergiste, il est dans l'auberge, avant d'être dans l'auberge, il a lui-même été l'homme blessé. On est blessé notamment par le péché. Hein. Donc, ça veut dire qu'en premier lieu, quand on va faire une lecture de ce texte-là, en premier lieu, il faut que nous nous placions dans l'homme blessé. Et si on veut s'écarter un petit peu, mais quoi qu'il arrive, même si on est ramené par le baptême à l'auberge et qu'on rentre dans l'Église, on continue à être pécheur. Donc on continue quand même à avoir besoin que le Christ vienne nous sauver. Ce n'est pas définitif. Ce n'est pas définitif. C'est-à-dire que, bien sûr, on est sauvé par le baptême, mais on a besoin de renouveler ce que nous avons reçu au baptême, et notamment par le sacrement de la réconciliation. Bon, on va refaire le lien entre tous les sacrements, c'est pas le lieu maintenant, mais l'idée elle est bien là. Donc dans un premier temps, nous sommes l'homme blessé. Dans un deuxième temps, on peut lire que nous sommes l'aubergiste, ou du moins dans l'auberge. Et dans un troisième temps, mais qui arrive bien plus tard, on peut dire aussi, on peut en tout cas, se voir sous les traits du Samaritain. Alors souvent, on se dit, le bon Samaritain, on a tous envie d'être bon, donc on a envie d'être le bon Samaritain. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le texte. Dans le texte, ça ne fonctionne que parce que Jésus dit, va et toi aussi fais de même. Donc comme Jésus invite à faire de même, dans ce cas-là, effectivement, on peut se considérer à un moment donné comme étant appelé à être le bon Samaritain. Et je dis bien être appelé à. Parce que c'est Jésus qui dit, va, toi aussi, fais de même. Donc on ne va pas sauver en notre nom, parce qu'on sait très bien que si on prend les traits du bon Samaritain, on les prend au nom du Christ, à la suite du Christ, au nom du Christ. Et alors pour Pour clore, donc je vous disais qu'il y avait un côté hasardeux à dire qu'il y a sept actions, donc sept sacrements. Mais dans ce cas-là, que deviendrait le plus 1? Et alors, l'une des hypothèses qui a été avancée, mais qui est tout aussi hasardeuse, mais en même temps, je vous l'ai dit, parce que l'idée, c'est que ça permette de réfléchir, le plus 1, ça pourrait être, cette fois, non pas un sacrement, mais la question du purgatoire. S'il y a besoin, alors je paierai ce qu'il y a en plus. Ça viendra après. Et dans ce cas-là, l'auberge n'est plus l'église terrestre, mais l'église céleste. On est confié à cette église et il y a besoin de plus. Bon, alors, on va prendre ce temps-là, mais le but, c'est l'auberge. Mais c'est hasardeux parce que le but, en l'occurrence, de l'homme blessé, c'est pas de rester à ce moment-là dans l'église. Enfin, dans l'auberge. Et de fait, ce que le Christ nous enseigne, c'est que même si on fait partie de l'Église, on est appelé à partir sur la route pour annoncer le règne de Dieu, comme les 72 l'ont fait juste avant. Donc voilà, proposition de lecture du Bon Samaritain, en essayant de s'appuyer un peu plus sur le texte.